Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
L'offensive turque risque d'entraîner la résurgence de Daesh. Et cette offensive va entraîner un vrai sinistre humanitaire.
La France et l'Europe condamnent d'une seule voix l'offensive turque en Syrie. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, va boycotter France-Turquie ce soir au Stade de France. Un match de foot qui prend une toute autre dimension.
Match à haut risque, bien entendu. 30 à 40 000 supporters turcs attendus. Le dispositif de sécurité a été de fait renforcé. Nous serons sur place.
Elle n'est que la deuxième femme de l'histoire à se voir décerner le prix Nobel d'économie. Elle est française, Esther Duflo, récompensée pour ses travaux sur la pauvreté.
Je me suis toujours intéressée aux questions de pauvreté et toujours avec un résidu de me sentir un peu coupable.
Un prix qu'elle partage notamment avec son mari, lui aussi économiste, comme elle, comme en d'autres temps, Pierre et Marie Curie.
Dans l'actualité également ce soir, Sébastien, des troubles en Catalogne, des charges policières contre des manifestants qui protestent, on vous en parlait dès vendredi, contre la condamnation de 9 leaders indépendantistes.
La justice espagnole, l'État espagnol sont ennemis de la liberté. C'est une sentence fasciste.
Et puis le titre du prochain Astérix a été dévoilé. Il paraît dans 10 jours à 5 millions d'exemplaires à travers le monde. Et le héros est une héroïne, la fille de Vercingétorix. La bourse de Paris en baisse de 0,4% à 5 643 points.
Et la météo, Danissa?
Eh bien la météo, elle est très capricieuse aujourd'hui avec une ligne orageuse qui est en train de traverser la France. 46 départements sont placés en vigilance orange. Vent violent, plus de 110 km/h par endroit. De la grêle, une forte activité électrique. Et en ce moment, il y a de fortes inondations en Mayenne. Le détail pour les prochaines heures, c'est dans un instant, la fin du journal.
Europe 1.
Ça a été la nuit en pleine journée tout à l'heure dans l'Ouest, hein, Anissa le disait à l'instant, la région nantaise, la Mayenne, des trombes d'eau, gros orages, 42 départements sont en vigilance orange, 30 cm tout à l'heure dans le centre-ville de Laval et tout est allé très vite, raconte cette commerçante.
Ça a été la piscine dans le magasin. Ça ne nous était jamais arrivé que nos cabines soient inondées et que ça rentre sous les murs. Quand vous voyez les voitures passer, vous avez à peu près les trois quarts des roues qui sont immergées. Vous croyez à la montagne, vous savez, dans les torrents où ça dévale bien. Il y a les poubelles qui passent dans la rue. Enfin, vous savez, quand c'est le déluge, tout le monde fait pareil. On trouve une porte ouverte et on attend que ça se passe. Et évidemment, quand c'est comme ça dans les magasins, ben on les accueille, quoi. Ça a duré quoi ? Une bonne demi-heure, toute cette histoire, quand même, hein ? Mais bon, ça y est, le gros est passé. Il n'y a plus qu'à nettoyer la rue au niveau des ordures, si vous voulez. Et je pense aller dans certains magasins pour aspirer l'eau parce que les caves doivent être inondées.
On a une commerçante de Laval jointe par Caroline Baudry. Prudence, hein, si vous êtes dans ces régions. À Nantes, le trafic de certains tramways a dû être interrompu. Le trafic TER coupé aussi dans les deux sens entre Nantes et Le Mans avec des arbres qui sont tombés sur les voies. Trafic très perturbé en direction des Sables d'Olonne. Gros dégâts aussi près de la Roche-sur-Yon. Des arbres sur les routes. Le toit d'une auto-école s'est effondré.
Il est 18h03, la suite du journal. Sébastien Krebs, Nathalie Lévy. L'autre grand titre ce soir, quelle sera l'atmosphère au moment où retentira la Marseillaise tout à l'heure dans l'enceinte du Stade de France?
Il y a des rencontres de foot qui prennent bien d'autres dimensions que le sport. C'est le cas de ce France-Turquie dont certains politiques ont réclamé aujourd'hui l'annulation pure et simple pour marquer encore plus fortement la condamnation de la France de l'offensive turque en cours en Syrie. Match à haut risque, on le disait. On va rejoindre aux abords du Stade de France Théo Manval. Théo, on attend 30 à 40 000 supporters turcs, ce sera la moitié quasiment du stade. Le dispositif de sécurité a été considérablement renforcé.
Oui, les policiers sont partout, hein. Ici aux abords du stade, plusieurs centaines, un millier même d'effectifs mobilisés selon certaines sources et qui contrôlent la foule par tous les accès, tous les carrefours, certains véhicules aussi. De larges périmètres de trottoirs sont aussi bouclés, Sébastien, interdits au public pour éviter les regroupements ou les débuts de manifestations. Mais devant les portes du stade, vous l'entendez, il y a déjà des centaines de supporters turcs, drapeaux sur les épaules qui mettent l'ambiance. Sans tension pour l'instant, dans un climat plutôt bon enfant.
C'est uniquement du média, c'est uniquement du pipeau. Il n'y a rien de tout ça. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun est venu vivre une expérience. On est là pour le foot, pas pour faire de la autre chose ici.
Que les associations kurdes pourraient venir manifester autour du stade, est-ce que vous en avez entendu parler ou pas?
On en a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. Moi, je vois rien de tout ça. Et la provocation, c'est celui qui cherche qui trouve, quoi, tout simplement. Ici, on est venu faire du sport, hein, pas autre chose.
Mais la préfecture de police étend tout de même sa vigilance dans les transports, mais aussi dans tout le département de la Seine-Saint-Denis et même Paris, où des équipages de la BAC feront des patrouilles ce soir aux abords des établissements qui sont susceptibles d'accueillir un public turc pour suivre le match.
Théo Manval aux abords du Stade de France pour Europe 1. Coup d'envoi donc de ce France-Turquie 20h45. Ce sera à suivre sur Europe 1 avec à la clé côté sportif, en cas de victoire, une qualification confirmée pour l'Euro 2020.
Un match que va boycotter le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Il a décidé d'annuler sa venue cet après-midi même. Il l'a annoncé en marge d'une réunion à Bruxelles.
Réunion avec ses homologues européens, au cours de laquelle une déclaration commune a été adoptée. Condamnation et menace de sanctions contre la Turquie. Jean-Yves Le Drian demande aussi une réunion d'urgence de la coalition avec les États-Unis.
C'est particulièrement grave parce que l'offensive turque risque d'entraîner la résurgence de Daesh sous différentes formes. C'est déjà commencé d'ailleurs, puisque et à Raqqa et à Kamchili, il y a eu des attentats. C'est particulièrement grave parce que les forces démocratiques syriennes, aujourd'hui menacées, sont nos alliés, ont été nos alliés depuis le début dans la lutte contre Daesh. Et c'est particulièrement grave parce que cette offensive va entraîner un vrai sinistre humanitaire. Il y a déjà 130 000 réfugiés déplacés qui sont dans l'angoisse.
Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Certains ministres européens n'ont pas caché leur sentiment d'impuissance. On y reviendra dans le journal de 19h avec Isabelle Horry à Bruxelles.
On va aller sur le terrain, Sébastien, dans le nord de la Syrie. Hein. Précisément, ce sont maintenant les troupes de Bachar al-Assad qui se déploient pour contrer l'incursion turque.
Jean-Sébastien Soldaini, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Les Kurdes attaqués n'ont donc pas eu d'autre choix que de se tourner vers les forces du régime de Damas qui sont donc entrées dans la région.
Oui, elles se sont même installées tout près de la frontière, à moins de 6 km par endroit. Cela fait plusieurs années que les soldats syriens ne sont pas arrivés si près de la Turquie dans cette zone, contrôlée d'abord par Daesh, puis par les forces kurdes, des chars qui ont parfois été salués à leur arrivée, alors que Damas n'a pas toujours été tendre avec les Kurdes, et ça se ressent aussi auprès des Kurdes qui vivent en Turquie. Omar Farouk accepte volontiers ce revirement.
On gagne du temps, et je pense que c'est bien joué sur le plan militaire.
If you look at the military base, but
mais
in politics,
sur le plan politique, tomorrow, on va voir comment ça va se passer avec les Syriens dans les prochains jours et prochaines semaines. On doit parvenir à un bon accord avec le gouvernement syrien. C'est vrai qu'on était ennemis avant, mais l'État turc a attaqué des zones kurdes. On n'avait plus le choix.
Plus le choix, c'est la formule qui revient à chaque fois que vous discutez avec des Kurdes ici. La question maintenant, c'est de savoir comment ces deux composantes vont réussir à s'entendre. Damas va tenir des positions militaires, mais est-ce que les Syriens vont, en échange de cette souveraineté retrouvée, donner un peu d'autonomie aux Kurdes? C'est ce qu'ils attendent pour avoir permis de vaincre l'État islamique.
Jean-Sébastien Soldaini, envoyé spécial d'Europe 1 à la frontière entre la Turquie et la Syrie.
Et ce dossier brûlant, on en parle avec mon invité, le député européen Rassemblement National Thierry Mariani. Après le journal, sachez qu'au Stade de France ce soir, la seule membre du gouvernement à assister à la rencontre sera la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Ce sera également le débat des grandes voix dès 18h30. On y reviendra à 19h20 avec le décryptage de Didier François dans Demain dans le Monde.
Sujet évoqué aussi à l'Elysée. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a reçu successivement la future présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil, Donald Tusk, avec aussi au programme de ces rencontres, bien sûr, le Brexit et la recherche d'un candidat pour remplacer Sylvie Goulard.
On est plus de 15 jours après l'explosion, l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, Sébastien, et des informations qui viennent de nous parvenir ce soir, une relative bonne nouvelle, la levée des mesures de restriction sur la collecte du lait.
Voilà, décision actée à l'instant par le préfet. Vous savez que la commercialisation du lait était interdite depuis maintenant 2 semaines. Des analyses ont été effectuées. Nous en avons donc le résultat ce soir, l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui dit que les seuils réglementaires ne sont pas dépassés, mais qui souligne toutefois qu'il reste des éléments d'incertitude quant au risque de contamination du lait par les retombées donc de cet incendie. On a appris également aujourd'hui que ce ne sont pas 5000 tonnes de produits chimiques qui ont brûlé à Rouen le jour de cet incendie, mais plus de 9000. Nouveaux décomptes de la préfecture, puisqu'on sait maintenant que plus de 4000 tonnes ont brûlé sur le site voisin Normandie Logistique.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. À suivre dans votre journal de 18h, une Française prix Nobel d'économie, Esther Duflo, récompensée pour ses travaux, notamment sur la pauvreté.
Et puis le prochain Astérix qui arrive avec une héroïne en couverture. Elle s'appelle Adrénaline et c'est la fille de Vercingétorix.
Vous écoutez Europe 1, votre grand journal du soir, jusqu'à 20h. Europe 1.
18h11 sur Europe 1, la suite du journal avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Une Française récompensée par un prix Nobel, c'est pas si fréquent, le Nobel d'économie attribué Sébastien à Esther Duflo.
Elle n'est que la deuxième femme de l'histoire à recevoir cette récompense qu'elle partage avec deux Américains, l'un des deux étant son mari. Quatrième prix Nobel d'économie français, Esther Duflo récompensée, François Geffrier, pour ses travaux sur la pauvreté.
Exactement, le développement des pays pauvres. Esther Duflo, qui est née à Paris il y a 46 ans, qui est aujourd'hui professeure aux États-Unis au MIT, université américaine très prestigieuse à Boston. Et depuis toujours, elle cherche comment réduire les inégalités. C'est ce qu'elle confiait sur Europe 1 à Jean-Pierre Elkabbach en 2015.
Je me suis toujours intéressée aux questions de pauvreté et toujours avec un résidu de me sentir un peu coupable d'être née dans une famille de classe moyenne, dans un pays riche, alors que j'aurais pu, par un autre hasard, me retrouver comme une petite fille africaine qui devait porter de l'eau pour sa famille.
Alors Esther Duflo elle-même a travaillé au Resto du Cœur dans sa jeunesse, mais l'objet de son travail de chercheuse, qui lui vaut le prix Nobel, ça a beau être de l'économie, c'est parfois très concret. Voici par exemple comment on peut inciter la population indienne, qui est très pauvre, qui est parfois soumise à beaucoup de maladies infantiles, comment on peut l'inciter à faire vacciner ses enfants.
On a essayé de proposer aux gens un tout petit encouragement à la vaccination. Donc un kilo de lentilles. Un kilo de lentilles, ça ne va jamais persuader quelqu'un qui est vraiment contre la vaccination de se faire vacciner. C'est tout petit, même en Inde. Mais par contre, ça permet peut-être de décider de le faire aujourd'hui plutôt que d'attendre le mois prochain.
Et ça a marché ?
On trouve un effet de ce kilo de lentilles sur les taux de vaccination qui les multiplie par 6 ou 7.
Ah, ce qui est frappant dans les interviews d'Esther Duflo, elle dit souvent « je ne sais pas » aux journalistes qui lui posent des questions sur quels sont les leviers miracles. Elle dit « il n'y a pas de solution miracle, sinon on n'aurait plus de pays pauvres. La solution, ce sont toutes ces petites actions, ces leviers sur lesquels on appuie pour changer une chose du quotidien. Esther Duflo est donc récompensée du Nobel d'économie en même temps que son mari, vous le disiez, l'américano-indien Abhijit Banerjee, qui a été son directeur de thèse il y a 20 ans au MIT, et un autre chercheur américain, Michael Kremer.
François Geffrier du service économie d'Europe 1.
Des charges policières ce soir à Barcelone. La tension est montée d'un cran après la condamnation de 9 leaders indépendantistes.
Des peines de 9 à 13 ans de prison ont été prononcées pour sédition, peine prononcée par la Cour suprême pour l'organisation illégale du référendum de 2017 et la tentative de sécession. La peine la plus lourde frappant le vice-président de la région, Henri de Laguérie. Vous êtes à Barcelone, cette annonce a déclenché de nouvelles manifestations.
Effectivement, ces manifestations se concentrent ce soir autour de l'aéroport de Barcelone et dans le terminal. Des milliers d'indépendantistes tentent d'occuper l'infrastructure et de bloquer ses accès. On vient d'assister à de violentes charges policières. Une vingtaine de vols ont été annulés. Écoutez Luis, fonctionnaire d'une cinquantaine d'années que j'ai croisé lorsqu'il était en chemin vers l'aéroport.
La justice espagnole, l'État espagnol sont ennemis de la liberté. C'est une sentence fasciste.
Voilà, les peines sont lourdes, mais elles sont tout de même inférieures à celles réclamées par le parquet. Pedro Sanchez, le Premier ministre, appelle au respect du verdict. Quim Torra, le président catalan, dénonce lui une vengeance de l'État. Il appelle à la fin de la répression. Anna a posé sa demi-journée pour aller manifester.
Je viens de sortir mon travail pour montrer mon indignation, puisque ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est ça ? Quelle est la raison qu'ils sont en prison à ce moment-là ? Bien sûr que je suis en colère.
Voilà Sébastien, et précisons que les condamnés sont en prison préventive depuis 2 ans. Certains devraient pouvoir bénéficier d'un régime de semi-liberté d'ici quelques mois. La justice espagnole a dans le même temps réactivé un mandat d'arrêt européen contre Carles Puigdemont, toujours installé à Bruxelles.
Henri de Laguérie, correspondant d'Europe 1 à Barcelone. L'Espagne a lancé donc ce nouveau mandat d'arrêt contre Carles Puigdemont qui a fui en Belgique. Au Japon, 56 morts, nouveau bilan donné après le passage du typhon Agibis. 15 personnes sont toujours portées disparues, des dizaines de milliers de sauveteurs cherchent encore des survivants dans les zones inondées.
On va terminer en beauté avec le Gaulois le plus connu au monde, Sébastien. Astérix revient et la star de ce nouvel épisode est une ado.
Ouais, elle s'appelle Adrénaline, elle a une natte rousse. Certains lui trouvent d'ailleurs une ressemblance avec Greta Thunberg. En fait, rien à voir, c'est la fille de Vercingétorix. C'est le titre aussi de ce 38e album qui va sortir dans 10 jours dans une trentaine de pays. 5 millions d'exemplaires, Thierry Geffrotin. Pour l'instant, on ne connaît que la couverture. Le reste est un secret très bien gardé, comme la potion magique.
C'est une telle machine.
Quel secret, oui. Tous les détails, ben, on attendra dans 10 jours, le 24 octobre, pour connaître tous ces détails. On en sait quand même un peu plus. Le nom, donc, Adrénaline, un prénom, ça en dit long. Déjà, Adrénaline, elle a du tempérament, c'est une ado rebelle. En plus, c'est la fille d'un chef. Alors, vous imaginez le caractère. Ce matin, on a aussi pu découvrir la couverture de cette nouvelle aventure. On y voit les trois personnages principaux, Astérix, Obélix et Adrénaline. Adrénaline, une grande jeune fille filiforme, vous l'avez dit, elle a une natte très longue, natte rousse, elle a le visage fermé, les bras croisés dans un air de défi devant Obélix qui a l'air, lui, très surpris. Devant elle, Astérix tend une main protectrice face à un ennemi invisible, à moins qu'il n'essaie de calmer Adrénaline. Trois héros donc, et Idéfix qui est là aussi, qui aboie méchamment. L'histoire, en tout cas le début de l'histoire, le village gaulois reçoit la visite de guerriers arvernes, la tribu de Vercingétorix, et ses membres du FARC, le front arverne de Régistange Chocrette, vous savez, on est presque en Auvergne, hein, accompagnent Adrénaline qui vient trouver refuge et protection dans le village. L'album fait la part belle à l'adolescence, hein, on s'en doute. Adrénaline, bien sûr, et quelques jeunes gaulois du village. On voit toujours les vieux, hein, les parents, on voit jamais les jeunes dans ce village. Obélix aussi, resté ado dans sa tête. Alors ce que l'on sait enfin, c'est le nombre d'exemplaires mis en vente. 2 millions en France, hein, c'est trois fois un Goncourt. 5 millions à l'international, 30 pays, 15 langues. La preuve que les aventures d'Astérix et Obélix captivent bien au-delà de la Gaule.
Ouais, cet ado, on peut s'attendre à des bouleversements intergénérationnels.
Ah, hein, ça va donner. 24 octobre, donc ouais. la sortie. Merci Thierry Geffrotin.
Et merci à vous Sébastien. Nouveau rappel des titres avec vous, c'est 18h30, le rendez-vous dans ce studio.